sortie de boîte.
C'est un lieu improbable pour abriter un atelier de fabrication de pièces en matériaux composites. Je me trouve en plein centre de Develier. Rien n'indique ou presque la présence de l'entreprise Berbera Polyester, un peu comme son patron, tout en discrétion. Il y a juste un bolide jaune, modèle réduit, qui trône au bord de la route. J'apprendrai plus tard que mon invité s'est fait la main sur des Lamborghini. Je m'avance donc dans cet ancien cours de ferme. J'ai d'ailleurs du mal à trouver l'entrée de l'atelier. Et c'est là que mon invité m'accueille et me montre son domaine. C'est l'odeur qui me surprend en premier, lui ne la remarque même plus, un mélange de plastique fondu et de bois. Je passe ensuite le seuil de la porte et pour mon œil non initié, je dois bien dire que l'atelier est rempli d'un tas de rouleaux, de moules de toute taille, d'établis dans tous les coins, un véritable fatras d'objets hétéroclites. Et pourtant, mon invité sait exactement où se trouve chaque chose, c'est qu'il est à la tête de son entreprise depuis plus de 30 ans. Jean-Claude Berbera, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
On va commencer par dresser votre parcours qui est plutôt atypique. Au départ, les matériaux composites, la fibre de verre, vous n'y touchez pas pendant votre apprentissage?
Non, pas du tout. Moi, j'avais fait un apprentissage de décorateur juste ici en face au grand magasin Gonzette qui n'existe plus actuellement.
Et finalement, vous n'avez pas beaucoup mis à profit votre apprentissage?
Alors non, pas du tout. Peu de temps après l'apprentissage, j'ai trouvé d'autres choses à faire, notamment justement, j'ai vu des bateaux. On allait retourner un bateau. On était notre moniteur de Delta à l'époque. Et puis en voyant ce bateau, on s'est dit, mais tiens, ça c'est un truc génial pour pouvoir voyager.
Donc, vous êtes entré dans les matériaux composites, vous êtes intéressé aux matériaux composites à cause d'un rêve un peu fou de voyager en bateau?
C'est exactement ça. Donc, on a vu ce bateau qu'on a aidé à retourner. C'était l'entreprise Lirti à Moutier qui faisait de la construction navale. Et on s'est intéressé avec un ami, on lui a posé plein de questions. Et on a trouvé ce moyen génial de pouvoir voyager, parce que le vent est gratuit. Une fois que le bateau est fait, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir parcourir le monde avec un voilier qui marche à la seule énergie du vent. Et bien sûr, je me suis engagé dans cette entreprise pour apprendre les rudiments de la construction navale, pour apprendre le polyester, pour apprendre comment est-ce qu'on fait un bateau, une coque, etc.
Donc ça, vous aviez 20 ans. Et en parallèle, vous construisez ce bateau?
Alors oui, je me suis mis à construire ce bateau avec mon ami. On a fait deux bateaux. Et en étant embêté, j'ai beaucoup appris là, parce que c'est une succession d'embêtements, je dirais. Mais on a mené ça bien, parce qu'on avait, Monsieur Lirti qui pouvait nous conseiller, effectivement. Et puis moi, j'étais exactement dans le domaine toute la semaine. Et voilà, on a fait deux coques, on a fait deux coques de voilier de 11,20 m.
Tout ça en matériaux composites, lequel?
Alors là, c'était du polyester sandwich avec une âme de balsa au milieu. Il y a encore beaucoup de bateaux qui se font actuellement comme ça.
Et alors, du coup, ce bateau, vous l'avez mis à l'eau?
Alors non, la construction a duré un peu plus longtemps que prévu. Je me suis marié, j'ai fondé une famille entre-temps. Et c'était difficile de mener l'entreprise, j'avais beaucoup de travail dans l'entreprise, et encore le soir de mettre du temps pour la construction de ce bateau, alors j'ai fini par le vendre.
Paraît-il qu'il ne restait plus que quelques petits détails à faire avant de le mettre à l'eau, hein?
Alors, pas tout à fait, donc la coque était finie, le pont était fini, tous les gros travaux étaient terminés. Mais il restait quand même la pose du moteur, l'accastillage, plus l'agencement intérieur quand même.
Ensuite, vous êtes embauché à Tavannes pour construire cette fois-ci des planches à voile. C'était un autre moyen d'acquérir de l'expérience?
Alors là, j'ai eu de la chance parce qu'il est venu une usine qui a décidé de construire des planches à voile et il cherchait des gens qui étaient formés dans le domaine. Et ils sont approchés de M. Lirti qui m'a recommandé. Et puis je me suis retrouvé chef de production aussi très très jeune. Et il y avait, pour finir, à Tavannes, il y avait 40 personnes. 40 personnes, où c'est qu'on faisait des planches à voile.
Mais la boîte ferme quelques années plus tard?
Alors la boîte a fermé, il y a eu des problèmes techniques. C'était la maison BBS qui font des jantes de sport, qui avait décidé de faire un département là. Et tout d'un coup, ils ont décidé de le supprimer. et je me suis retrouvé au chômage.
Donc à 27 ans, une famille à charge, un apprentissage de décorateur et 7 années d'expérience dans la construction avec des matériaux composites, vous créez votre entreprise, votre boîte, c'était culotté quand même.
Oui, j'avais gardé des très bons contacts avec M. Lirti qui m'a donné du travail en sous-traitance. Et j'ai commencé ça dans une écurie, donc chez mes parents, dans une écurie. Avec, j'ai acheté des 3 pinceaux, quelques rouleaux. Lui m'a fourni les moules. Et gentiment, j'ai commencé comme ça. Je dis gentiment, mais je crois que 2 mois après, j'avais déjà engagé quelqu'un parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup à faire.
Donc ça, c'était en 1985. Est-ce que les débuts ont été faciles ?
Non, c'était difficile. La sous-traitance... on apprend plein de choses parce qu'on bénéficie de l'expérience de ceux qui nous donnent le travail. On apprend plein de choses, on progresse techniquement, mais c'est pas beaucoup payé. Alors j'ai compensé par beaucoup d'heures.
Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, vous pensez que vous avez eu raison de vous lancer dans cette entreprise ?
Oui, parce que j'ai eu l'occasion de faire de belles choses. On a fait des belles choses et je suis fier de ces choses qu'on a faites. Et ça m'a permis aussi de côtoyer plein de monde et puis de travailler avec des gens intéressants. Par exemple, les collaborateurs que j'ai actuellement sont des gens fantastiques. Et puis, bien, c'est une richesse de pouvoir travailler comme ça dans une petite équipe.
Au début, qui était alors votre premier client, des sous-traitants, c'est ça ? Des grandes entreprises ?
Alors, c'était la maison Lirti à Moutier qui faisait des protections de machines. Et puis, petit à petit, lui s'est retiré. Donc, moi, j'ai racheté les clients. J'ai pu racheter les clients. J'ai trouvé d'autres sous-traitants, où c'est que j'ai bénéficié aussi d'autres moyens de fabrication, d'autres techniques de production. Et puis gentiment, j'ai trouvé mes propres clients.
Donc j'ai parlé dans mon introduction du bolide jaune à l'entrée de votre atelier. Quelle est l'histoire derrière les Lamborghini ?
Alors, les Lamborghini ont commencé de la manière suivante. C'est M. Roland Voltaire, propriétaire du garage à Porrentruy, qui m'a contacté, mais pour faire une piscine. Et il y avait sa piscine qui coulait, il voulait refaire sa piscine, et je me suis rendu sur place. Puis, je n'avais pas envie de faire une piscine traditionnelle, alors je lui ai proposé plein de choses, de mettre des lumières, de faire des couleurs dedans, enfin, j'avais plein d'idées. Et lui, il m'a regardé comme ça en coin, et puis il m'a dit, venez voir au garage. Et puis, au garage, il m'a montré une voiture, c'était une Lamborghini Diablo à l'époque. Puis il m'a dit, est-ce que ce serait possible de faire des bouches d'air, des introductions d'air sur le capot arrière ? Et c'est comme ça que ça a commencé.
Parce que les Lamborghini Diablo, c'était quoi leur problème ?
Alors, ces voitures étaient faites déjà depuis une dizaine d'années et les formes ne changeaient pas beaucoup. Et un client ne voulait pas forcément acheter une nouvelle voiture, mettre beaucoup d'argent pour une nouvelle voiture, alors qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle qui était produite 5 ans avant. Donc l'idée, c'était quand même
de personnaliser
ces voitures pour en faire des choses, un peu des œuvres d'art roulant.
Oui, vous parliez du projet d'un toit ouvrant.
Oui, à l'époque, Lamborghini avait fait une voiture roadster avec un toit, mais le toit, il n'était pas automatique. Et M. Voltaire lui a dit, mais c'est pas possible, on peut pas, une voiture de ce prix-là doit avoir un toit automatique. Et les ingénieurs ont dit là-bas, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop bas, c'est impossible de faire un toit automatique. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a reçu la première voiture, donc il l'a mis dans son garage, on a pris une grosse meule, et on a coupé le toit, on a coupé le arceau, et puis on a fabriqué, alors en collaboration, donc il y avait d'autres garages, il y avait le garage Jobin à l'époque, mais c'est surtout le garage Lamborghini avec M. Affolter qui a mené ça. Puis donc moi, j'étais responsable un peu de tout ce qui était forme en composite.
Et ça a marché ?
Alors oui, la voiture, elle a marché. Donc je ne sais plus si c'était 2 ou 3 mois après, M. Affolter est redescendu à Santa Agata avec la voiture. Il l'a posée dans le parc au milieu de l'usine. Il a appelé le patron, puis a dit « Regardez ». Et sur un bouton, depuis le bureau du patron, il avait mis la voiture en marche. Et après, il a pressé sur un bouton et le toit est parti derrière. Et le patron a engueulé ses ingénieurs en leur disant que c'était des incapables, parce que là, il y avait toute une horde d'ingénieurs, ils n'avaient pas pu faire ça, puis un petit garage à Porrentruy, un petit garage entre guillemets, avait pu réaliser quelque chose qu'eux n'avaient pas pu faire.
Aujourd'hui, vous faites encore du tuning, des changements au niveau de la carrosserie ?
Alors, très peu, je dirais même quasiment plus, parce que maintenant, tout doit être homologué. Alors, ça coûte cher d'homologuer des choses. Alors, on fait plus des recouvrements de carbone intérieur ou des choses comme ça. Mais dans l'extérieur, il n'y a plus grand-chose à faire. Il faut dire aussi que Lamborghini a fait des belles voitures maintenant. Elles sortent belles d'origine, ce qui n'était pas... Alors, Diablo, c'était beau, mais effectivement, ça a duré trop longtemps. Puis nous, on a bénéficié de ce créneau-là pour se lancer là-dedans. Alors moi, je me suis fait un nom grâce à ça. Je me suis fait un nom parce que quand je disais que je pouvais travailler pour Lamborghini, que je travaillais pour Lamborghini, bien, ça m'ouvrait certaines portes.
Aujourd'hui, donc, vous avez 2 employés, vous êtes à la recherche d'un 3e. Pourtant, à une époque, vous étiez 10. C'était une volonté d'avoir une plus petite structure ?
Oui, c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas de personnes formées dans le polyester. Il faut former les gens soi-même. Et d'avoir autant de personnes, le temps de les former, tout ça, c'est vraiment compliqué. Plus mes ateliers, donc ils ont environ 350 m² pour la production. On était trop, on se marchait dessus. C'est beaucoup plus agréable de travailler maintenant dans une petite structure.
Alors Jean-Claude Berberin, maintenant, qu'est-ce qui fait vivre votre entreprise ? Qui vous commande des pièces et pour quelle utilisation ?
Alors c'est surtout des fabricants de machines qui me commandent des protections, pour caréner les machines. Parce que certains en ont marre quelque part d'avoir des machines qui sont à l'angle droit, qui ressemblent un petit peu à des tanks. Et notamment la maison Bobst à Lausanne, eux, ils veulent donner des formes à leur machine. Ils veulent que leur machine soit plaisante, soit belle, qu'il fasse bon travailler dessus. Et du moment qu'il y a des formes, du moment qu'il y a des arrondis, là, le polyester, il entre en jeu. On a concurrencé certaines pièces en métal carré. On arrive aussi parce que l'avantage du polyester moulé, c'est que les pièces sortent directement finies, elles sortent peintes. Donc on gagne tout la peinture par rapport à de la tôlerie. Par contre, c'est plus compliqué de la mise en œuvre. Alors on régate les deux en tôlerie et en polyester. Certaines fois, on est mieux marché, d'autres fois, on est plus cher.
On va justement entendre la fabrication d'une de vos pièces. Jean-Michel Props a rencontré l'un de vos collaborateurs. C'est Michel qui nous dévoile une partie de son travail.
Sortie de boîte.
Alors là, je pose la fibre dans le moule.
Mm-hmm. Avec une espèce de colle, qu'est-ce que
alors là, c'est de la pâte. Je mets dans les angles pour éviter les bulles d'air.
D'accord.
Oui. Si on ne met pas de pâte, sinon dans les angles, il y a des risques d'avoir des bulles.
Et donc devant nous, là, on a un moule. Dans ce moule, vous allez poser donc ces différentes fibres.
Oui. Donc là, je commence par 150 grammes. Ça, c'est la première couche qu'on contrôle avec une lampe, justement pour voir les bulles. Parce que si la pièce, elle va en Chine après, puis qu'il y a une bulle, on est mal.
Qu'est-ce que ça t'a donné, ça, à la fin ?
Alors ça, c'est une protection, un cache, une machine, oui. Ouais.
D'accord.
Ouais. Ce qu'il faut surtout, c'est que la résine ne sèche pas.
Pendant qu'on fait la pièce.
Ah oui.
Parce qu'autrement...
Donc le temps est un peu compté, là.
C'est compté, le temps, oui. Oui,
oui. Ouais.
En environ 30 et 45 minutes.
Pour faire la pièce,
oui.
Vous en respirez quand même, là, hein ?
Oui.
Ah oui,
bah oui, bah oui.
Ouais. J'imagine que...
Bon, mais les ventilateurs, il y a les aspirations.
Oui,
équipés pour ça, mais on en respire, ouais.
Là, maintenant, avec un nébuleur,
ben là, j'enlève les bulles qu'il y a dans la pièce.
Voilà, donc cette pièce, elle va sécher. L'étape suivante, après ça, c'est quoi ?
Alors, lundi, Michel va la démouler. Donc, il enlève les différentes parties du moule, il les sépare. Puis après, elle part à l'usinage.
D'accord. On y va ?
Alors, on peut aller, oui.
Merci, Michel.
Je vous en prie.
Voilà, donc ici on a l'usinage, il y a les différentes sortes de pièces qui sont entreposées ici avant la finition. Puis la finition, ça consiste à enlever les collures qu'il y a entre les différentes parties du moule, qu'on ponce à la main. Et puis après, on coupe la pièce pour qu'elle soit au côté exact. Et puis là, on utilise soit des défonceuses ou des machines à main avec des 10 diamants.
Alors là, il y a une pièce quand même exceptionnelle qui vous plaît particulièrement aussi.
Oui, alors c'était un travail qui était génial qu'on a fait il y a quelques années pour la paléontologie. Donc ils ont trouvé dans le canton du Jura beaucoup de traces de dinosaures, des centaines de traces de dinosaures. Alors l'idée, c'était de faire des moules de ce sol en silicone. Et ces moules en silicone sont venus, ils me les ont apportés à l'atelier. Puis sur ces moules, on a fait des tirages en fibre de verre. Donc ici, cette pièce, on la voit, quelqu'un pourrait croire que c'est de la pierre, que ça a été vraiment coupé sur place en pierre, alors que c'est du polyester.
Sortie de boîte.
Jean-Claude Berberat, est-ce que votre métier vous surprend toujours, ou plutôt vous aimez relever finalement les challenges, les défis, comme avec les Lamborghini ou les traces de dinosaures ?
Effectivement, quand on a une nouvelle pièce à faire, c'est le cas actuellement, là on doit faire une coiffe pour une machine, pour une maison de Neuchâtel, c'est toujours un défi parce que il faut que la pièce, on puisse la démouler, il faut savoir comment on veut la faire, les nombres de couches de polyester, de résine, de renfort qu'on va mettre dedans. Et c'est stressant jusqu'à ce qu'on sorte la première pièce.
Mais c'est dans votre nature, ça, d'essayer des choses, d'apprendre sur le tas.
Oui, bien sûr. Moi, j'aime ça, effectivement. J'aime ça. Alors, c'est stressant, mais moi, j'aime ça, effectivement.
Vous passez beaucoup de temps à faire des recherches. Vous êtes passionné par les matériaux composites.
Alors, on est obligé de rechercher. On a des clients qui nous disent, voilà, on aimerait ça. On a une machine, là, on l'a fait en tôle, une protection. Et puis, avec les vibrations, elle se dessoude. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, il faut trouver des solutions avec des tissus différents, des tissages différents, du Kevlar, du carbone. On met des renforts pour que cette pièce, elle soit susceptible de répondre aux exigences demandées.
Parce que c'est quoi la différence, fibre de carbone, fibre de verre, Kevlar
Alors, je dirais que le 95% dans les thermodurcissables, le polyester, c'est un thermodurcissable, c'est de la fibre de verre parce que c'est le meilleur marché. Le polyester, c'est aussi de la résine, c'est aussi la résine de la meilleure marché. Ensuite de ça, il vient des époxys, qui est une résine qui est une meilleure colle, si on veut. Et avec les époxys, on travaille aussi encore avec de la fibre de verre, mais plutôt avec des fibres plus nobles comme le carbone ou le Kevlar. Les matériaux composites, c'est un assemblage d'au moins deux matériaux qui se complètent l'un l'autre. Et les premières choses qui ont été faites en composite, c'était par exemple un arc chez c'était les Mongols, je crois, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé qu'en mettant des tendons à l'extérieur du bois, l'arc avait un meilleur rendement. Et puis ils ont fait quelque chose en composite.
Vos pièces partent parfois très très loin, on l'a entendu dans le reportage, jusqu'en Chine. Du coup, la concurrence doit aussi être mondiale.
Alors, bien sûr, des fois, on nous met en concurrence avec la Chine. Alors là, ça fait plaisir quand on livre, nous, des pièces en Chine. Mais on nous met en concurrence avec la Chine, on nous met en concurrence avec la France et beaucoup les pays de l'Est. Les pays de l'Est, ils travaillent très bon marché. Et la chance qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a un nouveau moule, les pièces sortent bien. Mais de garder une belle qualité à la longue, après 100 ou 200 pièces, ou même moins, déjà à partir de 10 ou 20 pièces, c'est plus compliqué. Et ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de travail. Alors, de faire une belle pièce tout de suite, je dirais presque beaucoup de gens peuvent le faire, mais de garder une bonne qualité à longue échéance, c'est beaucoup plus difficile. Et on a eu des clients qui sont partis dans les pays de l'Est, notamment en Pologne, et qui sont revenus chez nous quelques temps après parce qu'ils n'étaient pas satisfaits à longue échéance des qualités des matériaux qu'ils leur envoyaient.
Les délais, le temps de conception, ça aussi, vous pouvez jouer là-dessus ?
Alors aussi, on est assez réactif parce que On travaille avec chez Décision. Chez Décision, ils ont des machines pour modeler, des machines de 5 axes pour usiner. Et ils nous font des modèles très, très précis. Et donc, le temps est relativement rapide parce que on fait par téléphone. S'il faut se déplacer, on est très proche. Et je dirais qu'un modèle, on peut l'avoir dans les... Ça dépend toujours un peu du travail qu'ont les uns et les autres, mais je dirais dans les 15 jours, 3 semaines, on a déjà le modèle. Et après, suivant la complexité du moule, il nous faut de nouveau une quinzaine de jours, entre une semaine et 15 jours, pour faire le moule.
Et depuis quelques années, un autre marché de niche se développe, ce sont les réparations de vélos.
Oui. Alors, de par notre expérience dans les Lamborghini avec le carbone... Le carbone, il existe des pré-imprégnés. C'est du matériel carbone qu'on garde au congélateur parce qu'il y a déjà la fibre, il y a déjà la résine dedans. Et ça durcit à température ambiante, donc on doit le garder dans le congélateur. D'ailleurs, mon épouse, pour la petite anecdote, avait fait des sons monstrueux quand elle a été chercher des pruneaux dans le congélateur et puis elle a vu des rouleaux de carbone. Elle me demandait ce que c'était. C'était pas la meilleure que j'aurais pu faire. Mais effectivement, j'ai dû trouver une solution parce qu'ils m'ont livré du carbone. Ils allaient livrer après chez Sauber dans l'écurie de Formule 1. Donc ils me livraient le carbone et le carbone durcissait. Ça vaut très cher. Alors enfin, je l'ai mis dans le congélateur.
En préparant l'émission, Jean-Claude Berbera, vous m'avez dit que le polyester, ça ne se remplace pas par autre chose. Le polyester, donc polyester Berbera, a un bel avenir ?
Oui, il y a des choses, on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas les faire autrement. Parce que si les arrondis, notamment par exemple, si on prend un ballon de football, puis qu'on veut faire une maison avec, on veut faire une sphère de 5 mètres de diamètre, c'est compliqué. Alors, on peut le faire en tôle, mais c'est déjà compliqué. Alors, en polyester, du moment qu'on a la forme, on moule dans les formes et on a les arrondis très, très facilement. On a des formes complexes qui sont très, très faciles à faire. Et ça, c'est notre avantage dans le domaine. Et ensuite de ça, par rapport à l'acier, ben justement, le Kevlar, par exemple, c'est 5 fois plus résistant que l'acier et beaucoup plus léger. La fibre de carbone, c'est beaucoup plus rigide aussi. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec ça. D'ailleurs, maintenant, les avions sont faits avec ça, les vaisseaux spatiaux, plein de choses dans le sport. Il y a les voitures de Formule 1, il y a les cannes de hockey, il y a les bateaux, les canoës, les kayaks, les arcs. On trouve ce matériel maintenant dans plein de choses, tellement il est fantastique.
Malgré votre passion à 59 ans, vous pensez déjà un petit peu à lever le pied en approche. Pour pouvoir faire quoi ?
Alors, quand j'aurai l'occasion d'un peu lever le pied, j'aimerais pouvoir un peu plus m'impliquer dans la fondation. La Fondation du Cœur, c'est une fondation que M. Roland Folter a créée avec son épouse. Et puis là, on est actif au Burkina Faso, en Angola, au Mozambique, un peu, beaucoup en Afrique. Et ce serait intéressant d'aller sur place, d'aller voir les puits qu'on a fait construire. Des puits, on en a fait construire une vingtaine, je pense, qui alimentent plus de 30 000 personnes. Des repas en Mozambique et en Angola. Donc on nourrit 4 000 enfants depuis 2011. Ça fait 700 000 repas qui ont été distribués. Au Soudan, on libère des esclaves. Il y a encore, je pense, 100 000 esclaves. L'organisation partenaire en a déjà libéré 100 000 et ils pensent qu'il y en a encore 100 000. Et la Fondation à Folter en a libéré 900. 900 à 180 francs pour libérer un esclave, ça paraît dérisoire. Mais avec 180 francs, on change la vie d'une personne et puis ça, c'est génial. Alors si je peux un peu m'impliquer plus dans cette fondation de M. Roland Folter, la Fondation du Cœur, ce serait avec grand plaisir.
Jean-Claude Berbera, on arrive déjà au terme de notre émission Sortie de boîte. Je vous remercie d'y avoir participé.
Ben, merci à vous, c'était un plaisir.
Donc la semaine prochaine, rendez-vous avec Alexandre Steiner qui va vous mettre l'eau à la bouche. Sortie de boîte sera consacrée à Christophe Bourquin, un douanier qui a ouvert une chocolaterie à Courtelary. Retrouvez toutes ces émissions sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente soirée.
Sortie de boîte.